Nous allons lire un verset dans le psaume 34, verset 12. Psaume 34, verset 12. Dimanche dernier, si vous étiez là, vous avez vu que nous avons rappelé l'importance de faire valoir notre vocation. Quand Pierre dit « Appliquez-vous à affermir votre vocation, les choses auxquelles nous sommes appelés ». Et nous avions vu, entre autres, l'importance de bénir. Vous vous en rappelez, si vous étiez là, l'importance de bénir. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à bénir. Ce matin, nous allons voir un sujet qui se juxtapose bien à cette affaire. C'est la crainte de l'Éternel. Psaume 34, verset 12. Que pensez-vous de cette parole ? L'avez-vous déjà lu ? L'avez-vous médité ? Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc, quand vous lisez ce verset, vous comprenez qu'il y a plusieurs choses à faire, à s'approcher d'une manière vraie, vraiment d'une manière. Ce n'est pas parce qu'on est dans un culte qu'on s'est approché de Dieu. Venez, mes fils, écoutez, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est important de prendre ce sujet à cœur. Est-ce que vous avez envie d'être enseigné dans la crainte de l'Éternel ? Car beaucoup de chrétiens n'ont absolument pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. On a chanté tout à l'heure « Craindrai-je encore ?» Il y a la mauvaise crainte qui est la peur, mais il y a la bonne crainte qui est le respect des choses de Dieu. Si on lit un peu avant, avant les psaumes, il y a Job. Dans le livre de Job, Dieu parle de Job. Est-ce que vous savez que Dieu peut parler de vous ? Vous le saviez ? Dans Job, au chapitre 1er, au verset 1er, vous connaissez cette histoire, ce livre, le livre de Job. Moi, je l'ai lu plusieurs fois pour avoir des réponses, et quand je l'ai lu, j'avais 100 fois plus de questions. Alors j'hésite à le lire. Non, mais c'est quand même un bon livre. Ne vous inquiétez pas, c'est un livre merveilleux. Job, chapitre 1er, verset 1er, il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Au verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. » Si vous voulez avoir la définition de l'intégrité, eh bien vous l'avez là, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Donc, une chose est certaine, Dieu veut que nous nous approchions de lui, car il y a tout à gagner d'être enseigné dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, l'avons-nous la crainte de l'Éternel ? L'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous avons absolument besoin, nous en avons besoin. Ça, je pense que si je vous demandais « est-ce que vous aimez Dieu ?», presque tout le monde me dira oui. Quoique, Jésus a dit « celui qui m'aime, c'est celui qui vient à l'église ?» Non ? Et vous savez, il y a 10 ans de ça, j'avais dit à un culte, « voilà, si vous êtes ici, c'est que vous aimez Dieu. » Toute la semaine, j'ai été repris, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais j'avais été poussé à demander pardon à l'église, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est là qu'on aime Dieu. Par contre, si vous gardez les commandements de Dieu, c'est sûr que vous aimez Dieu. Toute la semaine, j'étais à travailler par rapport à une parole qui semblait être vraie, mais qui n'est pas vraie. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Je vous avais raconté dernièrement ce témoignage de ce pasteur qui a été incarcéré parce qu'il avait détourné de l'argent. Il a fait de la prison et donc il a été interviewé par un autre pasteur, un jeune pasteur qui a été le voir parce qu'il faisait un article sur lui, etc., etc., etc. Et le jeune pasteur lui a posé la question, mais monsieur Tel, quand est-ce que vous vous êtes détourné de l'amour de Dieu ? Et l'ancien pasteur a répondu quelque chose de très juste. Il a dit, mais je ne me suis jamais détourné de l'amour de Dieu. J'ai perdu la crainte de Dieu. Il aimait toujours Dieu. Mais il explique que s'il avait eu la crainte de Dieu, jamais il n'en serait arrivé là. Et s'il y a bien une chose qui nous permet de nous éloigner du mal, c'est pas d'aimer ou de pas aimer Dieu, c'est d'avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, le respect des choses de Dieu. Vous vous rappelez sur le bois de la croix, vous vous rappelez Jésus crucifié, à côté de lui, deux brigands. Quand vous lisez l'histoire et comment ça s'est passé, il nous est dit que les deux brigands insultaient Jésus. Et que tout d'un coup, alors que Jésus allait mourir, qu'il avait dit plusieurs paroles sur la croix, tout d'un coup, un brigand, celui qu'on appelle l'impie, celui qui ne veut pas changer, le brigand impie, commence à insulter Dieu. Si tu es le fils de Dieu, etc., descends de là et descends-nous. Bon, voilà, c'est décrit comme étant une insulte. Et puis l'autre brigand va lui répondre et lui va lui dire, mais ne crains-tu pas Dieu ? Rappelez cette affaire. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, etc., etc. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il prêche à l'autre brigand, celui dont le brigand repentant, prêche au brigand impie, ne crains-tu pas Dieu ? Alors qu'il nous est dit que 6 heures avant, puisque 6-7 heures avant, nous voyons donc ces deux hommes en train d'insulter Jésus. Et pourquoi, quelques heures après, cet homme va-t-il dire « Ne crains-tu pas Dieu ?» Eh bien, parce que la croix, la prédication de la croix, l'œuvre de la croix, a le pouvoir de nous communiquer le respect des choses spirituelles. Et la première chose qui devrait venir dans notre cœur lorsque l'on est vraiment touché par la grâce de Dieu, ce n'est pas une expérience par-ci, une expérience par-là, c'est d'avoir le respect des choses spirituelles. C'est pour ça que moi j'aime rire, mais j'ai pour principe de ne jamais rire avec les choses bibliques. Jamais, il n'y a pas besoin de... Il y a de quoi... Si on veut rire, on peut rire sans ça, croyez-moi. Et mes frères et sœurs, c'est une question qu'il faut que nous nous posions. Est-ce que nous avons été enseignés dans la crainte de Dieu ? Est-ce que nous avons été enseignés ? Puisqu'on a lu « Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Est-ce qu'elle est dans le pays, la crainte de Dieu ? Vous vous rappelez quand Abraham a été... où c'est qu'il était ? C'était pas Guérard, c'était où ? Qu'il a vu Abimélec et qu'il a demandé à sa femme de dire que c'était sa demi-sœur, enfin sa sœur, etc. Parce qu'il avait dit à Abimélec, il n'y a aucune crainte de Dieu. Je me disais, on s'en dit des choses. Je me disais, il n'y a aucune crainte de Dieu dans ce pays. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans notre pays de France ? Moi, je ne pense pas. Je vous le dis franchement, je ne pense pas qu'il y ait la crainte de Dieu. Mais allons plus loin. Allons beaucoup plus loin. Y a-t-il la crainte de Dieu dans les églises ? Qu'il n'y ait pas la crainte de Dieu dans le pays, c'est un choix que les gens ont fait de ne pas vouloir la grâce de Dieu ou de ne pas avoir encore obtenu la grâce de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci, et même pas les églises, dans mon cœur. Mon cœur a-t-il été enseigné dans la crainte de Dieu, puisque c'est quelque chose que Dieu veut. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est important de prêcher sur l'importance de bénir. Est-ce que dimanche, vous étiez encouragé lorsque je vous ai rappelé ce texte de l'Écriture, mais bénissez, c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de bénédictions encore qui se rattachent au fait d'être enseigné dans la crainte de Dieu. C'est sûr que quand on bénit, quand on bénit les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont blessés, c'est certain que Dieu va ramener la bénédiction sur nous. C'est une loi. C'est comme quand vous mettez la main dans l'eau, elle est mouillée. C'est une loi. Quand vous bénissez, vous êtes appelé à être béni. C'est un principe spirituel. Mais la crainte de Dieu, elle amène des bénédictions qu'on ne peut même pas soupçonner. Et c'est Dieu qui dira, du temps du prophète Malachi, le formalisme avait envahi le peuple de Dieu, et Dieu dit, mais vous m'appelez maître, vous m'appelez seigneur, mais si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due ? Vous lirez le prophète Malachi, et vous verrez que chaque fois que Dieu pose une question, ça fait quand même réfléchir. Mais cette question, Dieu peut nous la poser ce matin. Vous dites, vous avez dit tout à l'heure, vous avez chanté, je suis votre maître, vous avez chanté, c'est beau cantique. Mais Dieu pourrait vous dire et me dire à chacun, mais d'accord, vous chantez, c'est bien, c'est biblique, mais si je suis votre maître, où est la crainte ? Où est la crainte ? Où est la crainte que vous avez de moi ? Moi, je suis heureux de voir que Dieu veut nous bénir. Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que ça vous rassure de voir que Dieu veut continuer à bénir ? C'est important de savoir que Dieu veut continuer à bénir. Mais il y a des choses qui font qu'on est agréable à Dieu. Vous avez vu comment Dieu lui-même parle de Job ? Bon, ça ne va pas empêcher Job de traverser une drôle d'épreuve. Mais il n'empêche que Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle. Vous croyez que toute la Bible est inspirée ou vous croyez que c'est poétique ? Comme plusieurs ont dit, oui, mais le livre de Job, vous savez, c'est comme le livre de Jonas, c'est de la poésie. Écoutez, moi je crois que ce livre est inspiré. Et que Dieu parle de Job, Dieu connaît tous les hommes. Je le lisais plusieurs fois encore dans la Bible, Dieu connaît tous les hommes, tous. Il vous connaît très bien, il sait si vous avez ou non le respect des choses spirituelles, si vous êtes là par habitude, si vous êtes là par superstition, si vous êtes là par amour, et si vous êtes là avec un grand respect. C'est d'Abdias qui nous est dit, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. C'était du temps du prophète Élie, il s'est écrit, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Oui, il y a des bénédictions. Regardez avec moi cet autre verset dans le livre des Actes. C'est un verset, moi, qui m'a beaucoup aidé. Vraiment, dans Actes chapitre 10, si je ne me trompe pas. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Je ne sais pas si, pour vous, c'est important que vous soyez agréable à Dieu. Vous avez vu le nombre de fois où il est dit, celui qui fait ça est agréable à Dieu. Est-ce que vous voulez être agréable à Dieu ? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu ? Ben ouais. Regardez, parce que quand même, Dieu le dit. Vous voyez, quand Dieu parlait de Job, Job ne savait rien sûrement. Et il l'a appris plus tard peut-être. Mais vous vous rendez compte, quand Dieu parlait de Job, il dit, mais tu as vu cet homme ? Il n'y a personne comme lui. Parce qu'il craint Dieu et il se détourne du mal. Et c'est pas de l'époque là, d'aujourd'hui aussi, acte 10, 34, alors Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, la Gaule y comprise, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette parole ? En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et c'est ce que nous voulons, vraiment être agréable à Dieu. Alors, nous allons prendre juste un exemple pour vous montrer que c'est une affaire qui n'est pas facile. C'est pas facile. Ça, hélas, le fait qu'il n'y ait pas la crainte de Dieu dans les églises, ça a commis beaucoup de dégâts. Pourquoi ? Parce que les gens ont souvent vu des chrétiens, des vrais chrétiens, des gens qui étaient passés par la vraie repentance, mais qui, à cause de la crainte de Dieu, ne s'étaient pas convertis, qui n'avaient pas la crainte, ne se sont pas convertis. C'est ça le problème. Je vous assure, moi, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé quand je suis arrivé à Toulouse. Quand je suis arrivé à Toulouse, parce que c'était quelque chose qui me blessait de voir. Je ne parlais pas des gens de Toulouse à l'époque, c'était ce que j'avais vécu. Quand je suis arrivé à Toulouse, ça faisait 15 ans que j'étais pasteur, et quand j'étais rentré d'outre-mer, et que je demandais des nouvelles, tiens, tel chrétien, qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah, il a abandonné le Seigneur. Et quand j'allais à Albi, parce qu'on est d'Albi, alors ce chrétien, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il n'était pas là ce matin. Ah, ben tu sais, il a abandonné le Seigneur. Vous avouerez que ce n'est pas la chose qui réjouit le plus quand on est chrétien, de voir que des chrétiens ont abandonné le Seigneur. Et je me rappelle, j'étais dans mon bureau un matin, je priais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'étais en train de lire à l'époque Matthieu 13, quand il est dit, vous savez, ceux qui croient pour un temps, quand Jésus dit, ils reçoivent la parole avec joie. Tu te dis, bon, ça va marcher, ils reçoivent avec joie. Mais, ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et c'est Jésus qui parle, c'est sérieux. Et ils croient vraiment. Et ils sont passés par la repentance. Ils aiment la croix autant que vous et moi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le respect de Dieu. Ça fait que comme il n'y a pas la crainte, eh bien, quand le mal se présente, eh bien, ils n'arrivent pas à dire non. Et c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu m'a parlé, mais il y a une pensée qui s'est imposée à mon esprit. Ils se repentent, mais ils ne se convertissent pas. Alors que la Bible est catégorique, repentez-vous et convertissez-vous. Beaucoup, beaucoup, hélas, de chrétiens s'arrêtent à la repentance. C'est pour ça qu'on dit, mais ce gars, il est chrétien. Ça vous est jamais arrivé ? Franchement, allez, dites-moi-le. Allez, vous faites juste un signe avec les yeux. Est-ce que ça vous est jamais arrivé ? Je vous regarde. Est-ce que ça vous est jamais arrivé ? Je ne parle pas d'une erreur qu'on peut commettre. Ça peut arriver une erreur. Mais de voir continuellement le comportement de quelqu'un, de dire, mais ce gars, ce n'est pas possible, il n'est pas chrétien. Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question ? Eh bien, il est. Le problème, c'est qu'il n'est pas passé par la conversion ou par la nouvelle naissance. Il n'a accepté Jésus que comme sauveur. Ça commet beaucoup de dégâts dans les églises, bien sûr, parce que nous devenons des pierres d'achoppement lorsque nous n'avons pas ce bon témoignage. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais venez, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car si dimanche dernier, vous étiez peut-être content d'avoir cette prédication sur « Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction », laissez-moi vous dire que ce qu'on est en train de voir est beaucoup plus merveilleux et profond que le reste. Donc, dans le livre de l'Exode, nous avons l'exemple type, vraiment. Type du peuple de Dieu qui est sorti, et voilà, ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et pourtant, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Vous trouvez que c'est une belle expérience, ça? Est-ce que les 10 plaies d'Égypte, ce sont de belles expériences? C'est quand même plus que la guérison d'un rhume. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Et ça, c'est sûr, quand vous lisez le livre de l'Exode, tant que Dieu bénit, il chante. C'était des vrais pentecôtistes. Tant que Dieu bénit, il chante. Dès qu'ils sont dans l'épreuve, ils murmurent. Oui, on est tous pareils. Oui. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait leur apprendre la crainte de l'Éternel. Eux, bien sûr, ils sont restés bloqués sur le lait et le miel et les figues et la vigne et les verts pâturages et les lacs et les sources d'eau qu'il y avait au pays de Canaan. Ça, ils ont compris le message. Mais Dieu avait autre chose à apprendre avant. Vous savez, vous pouvez être bloqué sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Est-ce que ça doit être intéressant? Est-ce que c'est intéressant, le programme? Est-ce que le meilleur est devant nous? Oui. Enfin, quand on regarde le programme à venir, laissez-moi vous dire que ça devrait être bien. Et même très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Ça, c'est déjà réglé de toute façon. Nous devrions nous dire, mais le temps qu'il me reste à vivre sur la terre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors lisez avec moi dans l'Exode au chapitre 20. C'est un livre, ça, je ne sais pas comment vous faites pour lire la Bible. Vous lisez toujours les psaumes? Où vous lisez mécaniquement de la Genèse à l'Apocalypse. Moi, je vous conseille de faire une lecture mécanique, de lire tous les jours un chapitre, un suivant ou deux. Ne lisez pas pour lire, et après de lire, bien sûr, des livres qui vous plaisent particulièrement. Mais c'est bien de connaître toute la parole de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, on voit, bien sûr, qu'il y a... C'est sûr, quand quelqu'un dit que c'était quoi l'Égypte? Ah ben, Dieu voulait les sortir d'Égypte pour les amener à Canaan, pays où coule le lait et le miel. Voilà, vous pouvez pas dire... J'ai très, très, très bien résumé ce que Dieu voulait. Mais Dieu ne voulait pas que ça. Regardez avec moi, Exode 20, verset, on va lire à verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Vous voyez déjà, alors que Dieu voulait leur parler, c'était extraordinaire. Ils ne voulaient pas que Dieu leur parle parce qu'ils avaient peur de ce que Dieu allait leur dire. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » Regardez bien la suite. Là, c'est vrai qu'il y a le lait et le miel pour plus tard. « Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Pourquoi » Pourquoi ?« Et pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Donc, si vous comprenez comme moi ce verset, Dieu, avant le lait et le miel, les éprouvait pour qu'ils aient la crainte, afin qu'ils ne pêchent pas. Car, je le répète, c'est la crainte qui fera qu'on ne pêche pas. Je pense à Ananias et Saphira, là, ça me vient à l'esprit. Ananias et Saphira, est-ce qu'ils aimaient Dieu? Est-ce qu'ils avaient fait des expériences avec Dieu? Mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et on pourrait prendre comme ça tous les exemples qui pourraient me venir à l'esprit en même temps que je vais prêcher. Tous les cas de figure où les gens se sont fait piéger et ont péché, c'est pas qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ananias et Saphira, je suis convaincu qu'ils aimaient Dieu. Mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont menti sans problème. Ils se sont même concertés, on va dire qu'on avait... Ils n'étaient pas obligés de le faire. Vous voyez, cette bêtise que l'on peut avoir parfois. Mes frères et sœurs, Dieu... malgré le fait qu'il nous a délivrés du monde, de l'Égypte, c'est l'image, va nous amener dans un pays où coule le lait et le miel pour l'éternité, ça c'est évident, mais Dieu veut que nous apprenions à avoir la crainte. Pourquoi? Parce que le respect de Dieu fera que nous n'allons pas pécher. Quand vous allez vous mettre sur votre ordinateur et que vous allez avoir une image, hop, vous allez de suite avoir le verset qui va venir, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Écoutez, est-ce que c'est pas le cas qu'il y a tout le temps des images qui s'affichent, des trucs de malade, pour essayer de nous faire chuter? Oui ou non? Eh bien, voilà. Et si on a la crainte de Dieu, il va y avoir un verset qui va nous saisir, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je pense moi souvent au psaume 36, quand il dit, mais le méchant, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Voilà, les tentations, il y en a, les combats, les luttes, tout ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Quelqu'un un jour me disait, oh, j'ai l'envie d'arriver à la retraite, quand je serai à la retraite, ça ira mieux. J'ai dit, quand tu seras à la retraite, tu auras les mêmes luttes. Vous voyez comment on rêve parfois, comment on rêve. Le combat spirituel, il ne s'arrête pas à 60 ans et un jour. Le combat spirituel, j'ai le regret de vous dire, c'est toute la vie. Mais nous avons la victoire, nous devons avoir la victoire. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Une chrétienne me disait, il y a quelques mois de cela, je ne comprends pas pourquoi on traverse des épreuves. J'ai dit, mais les épreuves, Dieu les permet. Dieu, je ne vais pas revenir là-dessus, on le voit, Dieu veut nous éprouver pour nous enseigner la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, vous le savez, c'est quoi? Quelqu'un pourrait me dire, il y a une vingtaine de versets. Mais c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que ça vous intéresse d'acquérir de la sagesse? Ça vous intéresse d'être sage dans vos rapports avec vos amis, vos voisins, de savoir quand il faut parler, de savoir quand il faut se taire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile pour vous de savoir comment parler à quelqu'un au travail? Est-ce que c'est... Il y a des gens, ils parlent du Seigneur à tout azimut, ils ont parlé du Seigneur 52 fois à une personne, et tu te faut te convertir. Est-ce que c'est de la sagesse, ça? C'est ridicule. Si vous voulez éloigner quelqu'un de Dieu, continuez comme ça. Mais ça, c'est la preuve que la personne manque de sagesse. Vous voyez, quand on a parlé du Seigneur à quelqu'un une fois, s'il n'a plus envie, eh bien, il a besoin de voir un témoignage qui glorifiera le nom du Seigneur. Alors, il faut insister, il insiste, et en toute occasion, c'est écrit. On me l'a dit, mais justement, voyez. Mais voyez cette bêtise. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Mais est-ce que c'est une occasion, quand vous avez témoigné 100 fois à la personne, que le lundi, le centième lundi, vous le voyez, est-ce que c'est pas une occasion? Une occasion, c'est peut-être demain, vous allez prendre le métro, vous n'êtes pas disposé, vous avez passé une mauvaise après-midi, vous n'avez pas fait une mauvaise nuit, et vous voyez quelqu'un là dans le métro qui ne va pas bien, c'est peut-être une occasion. Favorable ou non, pour vous. Mais pour lui, c'est une occasion. Peut-être quelqu'un va aller se suicider. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut être une occasion de dire, tenez cet évangile, monsieur, j'ai à cœur de vous donner cet évangile. Peut-être que c'est ça. Voyez comment les gens tordent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés à avoir de la sagesse. Car je crois que qui que nous soyons, quel que soit notre niveau d'éducation, quelle que soit notre instruction, nous avons la possibilité de recevoir la sagesse de la part du Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le culte a commencé avec une parole que notre jeune frère a pris. Dans les actes, il nous a dit que la crainte s'emparait de chacun. Parce qu'il persévérait justement dans certaines choses. Oui, beaucoup d'hommes se sont repentis. Dans toutes les églises normales, tous les gens qui ont pris le baptême, hein, c'est qu'ils se sont repentis. Et moi, j'en ai même parlé avec les anciens. Moi, je dis, mais est-ce qu'il faut baptiser tous les gens qui demandent le baptême? Après tout, est-ce que ça nous regarde à nous de bien sûr qu'il faut vérifier la repentance et la conversion, mais c'est les gens qui se font baptiser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand même, c'est une question qu'on devrait enseigner, une question qu'on doit poser. Est-ce que je suis passé par la repentance? Ou est-ce que je suis passé par la repentance et par la conversion? Ce sont des questions sérieuses. C'est pour ça que Dieu nous éprouve. Dieu a le devoir de nous éprouver. Dieu nous bénira. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse? Je repose une question. Est-ce que vous voulez que Dieu vous éprouve? Il y en a un peu moins. Eh bien, il le fera quand même. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il le fera. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme les enfants. Vous avez des enfants, est-ce que vous les avez choyés, bichonnés? Est-ce que vous les avez bénis? Est-ce que quand ils vont demander, tiens papa, tu veux pas 10 euros? Ben on les donne, quand on les a. Mais nous avons aussi mis des fessées aux enfants, oui ou non? Mais pourquoi? Parce qu'on les aime. Dieu nous éprouve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve, oui ou non? Quelle épreuve? Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Dieu nous éprouve parce que Abraham devait apprendre certaines choses. Est-ce que nous voulons apprendre non seulement la sagesse, mais presque la façon d'être béni? Parce que ce serait ridicule, mais là, ça serait vraiment inquiétant. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ne faites pas cette prière. Dites au Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Je peux vous dire que la bénédiction, elle suivra. C'est imparable. L'épreuve, Dieu la permet. Il sait demain ce que nous allons traverser. Regardez, on va prendre notre exemple. Dans Exode chapitre 17, parce qu'il y en a des exemples. Celui-là, c'est un des plus connus. Dieu les conduit dans le désert. Ah, le désert. Entre l'Égypte et Canaan, il y avait un désert. Aïe, 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 aïe. Et Dieu les amène à un endroit, c'est à Réphidim, si je ne me trompe pas. Et il y a une source, il y a une source d'eau, c'est super. Ils ont soif, il y a une source d'eau. Mais manque de peau, la source... Oh, est-ce que Dieu ne savait pas que quand ils arriveraient à Réphidim, est-ce que Dieu le savait ou ne le savait pas, que l'eau était amère? Est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, il avait ouvert la mer Rouge, enfin, quand on voit ce qu'il avait fait avant, je pense que ce n'était pas grand-chose de dire, bon, cette source, qu'elle soit d'eau douce. Est-ce que Dieu aurait pu le faire avant? Juste avant qu'ils arrivent? Bon. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël a parti du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Vous voyez, comme vous disiez un peu avant, il chantait. Voilà, il chante pas pareil. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu? Ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi et tu es sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Beriba, ça veut dire tentation et querelle, hein, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Voilà, ça c'est une question, quand Dieu ne nous donne pas ce que nous aimerions, voilà, on remet en question sa présence. Vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Alors, la question, c'est, on ne va pas juger les Hébreux puisqu'on fait pareil, mais la question qu'il faut que nous nous posions est celle-ci, pour faire des progrès, pour être enseigné dans la crainte de l'Éternel, parce que le but, c'est qu'on avance. Le but, c'est que vous et moi, nous avancions dans la crainte de Dieu, un petit peu plus ce matin. Tiens donc, mais c'est vrai que Dieu ne me donne pas toujours des choses douces. Dieu peut me donner des prédications amères. Est-ce que ça peut arriver? Tiens donc, est-ce que ça peut arriver qu'une prédication soit amère? Cette prédication, comment vous la considérez? Comme étant douce ou comme étant amère? Mais c'est une bonne question. Est-ce que Dieu permettra que certaines choses dans la vie soient amères? Oui. Oui, Dieu le permettra. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Ils auraient dû dire, ben, Seigneur, tu vas faire quelque chose. L'eau, elle est amère. Bon, mais ça arrive des fois qu'on avale la salive avant de parler. Il y a des choses qui sont... Dans la vie, il y a des choses qui nous font mal. À vous, ça sera ceci, à l'autre, ça sera autre chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des choses qui nous font mal, surtout quand ça concerne la famille, quand ça concerne les frères et les sœurs, ou même quand le pire, je crois, c'est quand Dieu utilise des proches, un ami, un enfant, un ami, pour nous éprouver. C'est David qui le dit, mais ça serait un ennemi qui m'outrage. Mais je le supporterai. Un ennemi, bon, c'est normal. Mais toi, mon ami, mon confident... Quand David a été éprouvé par un de ses meilleurs amis, ça a été une épreuve terrible. Nous allions ensemble à la maison de Dieu, nous chantons des cantiques, et voilà que Dieu éprouve par un de nos amis. Est-ce que ça vous est arrivé d'être affligé à cause de l'amitié de quelqu'un? À qui c'est pas arrivé? Vous pouvez lever la main. Ou vous êtes sourd? Mais je suis sûr qu'on a tous été blessés par l'amitié de quelqu'un. C'est dur, ça. Moi, je sais, je l'ai vécu 3-4 fois, de devoir dire des choses. C'est dur. Franchement, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça peut arriver. Et il faut l'accepter, parce que la Bible dit, considérer toutes les épreuves comme un sujet de joie. Il faut accepter. Voilà, je suis éprouvé. En ce moment, je suis éprouvé dans mon foyer. Est-ce que ça peut arriver d'être éprouvé dans le foyer? Est-ce que ça peut arriver d'avoir un moment difficile avec son conjoint, ou non, tu es chrétienne, c'est pas normal, ou mes enfants sont pas encore convertis, je comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça, je les éduquais. Ben oui. Moi, le pasteur qui m'a formé, il avait deux enfants, c'était vraiment deux enfants terribles. Franchement, mais vraiment, Cet homme, il a failli arrêter le ministère, parce que vous savez, il y a un texte dans les Timothée qui dit que si quelqu'un ne dirige pas bien sa maison, eh bien, comment il prendra soin de l'église de Dieu? Et ce verset le travaillait. Pourquoi? Parce que pour lui, il avait mal éduqué ses enfants. Et c'est pas vrai. Il avait très bien éduqué ses enfants. Et je me rappelle son épouse. Moi, ce que ça me travaillait, comment je voyais qu'il leur parlait et tout. Ça me brisait le cœur quand je voyais comment un de ses fils lui parlait. Et je me souviens, un matin, on étudiait la Bible. Et j'ai dit, écoutez, avant d'étudier, j'ai une question à vous poser. Mais je me rappelle, ça m'avait troublé. Et j'avais dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que vos enfants soient comme ça? On a enseigné le bien à nos enfants. Et ils ont choisi le mal. Et on a la paix. Et c'était vrai. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand Ézéchiel parle, il dit, mais si tu avertis le méchant, on ne peut pas changer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut l'avertir. Vous êtes d'accord? On peut l'avertir. Si tu l'avertis, Dieu ne demande pas à Ézéchiel, tu vas le changer, tu as intérêt à le changer, il faut qu'il change. Tu dis, avertis-le. S'il écoute ou s'il n'écoute pas, mais avertis-le. Et par exemple, ce matin, on est sous le regard de Dieu. Je pense qu'on est plusieurs à prier pour que l'Église soit sérieuse, pour que l'Église ait une vraie piété, pour qu'on avance dans la volonté de Dieu, pas que dans la bénédiction, mais que nous avancions dans une véritable bénédiction spirituelle. Et la crainte de Dieu contribuera à cela. Et voyez l'exemple du peuple d'Israël à Réphidim, laissez-moi vous dire que d'ailleurs, ça n'a rien coûté à Dieu de transformer l'eau amère en l'eau douce. Et Dieu peut changer n'importe quelle situation en un tour de main. Vous le croyez que Dieu peut changer le mal en bien? Vous croyez que Dieu peut changer le cœur d'un de vos enfants? Mais acceptons ce qui pourrait être amer. Acceptons-le. Ne vivons pas là, renfrognés, en train de murmurer contre l'un, contre l'autre, contre les églises, contre la nation. Non, Seigneur, moi, je voudrais marcher dans la crainte de Dieu et me détourner du mal, comme Job. Job, c'était un homme béni. Il a été très, 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 très éprouvé. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit des choses difficiles et Dieu ne lui a jamais reproché parce qu'il souffrait. Quand il dit, mais mon âme est dégoûtée de la vie, il en avait marre de vivre. Est-ce que ça peut arriver quand on est éprouvé d'en avoir marre de vivre? Ben oui, est-ce que Dieu le lui reproche? Ben non, mais par contre, dans sa réflexion, dans sa souffrance, eh bien, il va conserver cet état de cœur. Et c'est ce que Dieu voudrait. Je les ai amenés dans le désert, je veux les enseigner à avoir la crainte de mon nom afin qu'ils ne pêchent pas. Nous avons besoin d'être enseignés dans la crainte de l'Éternel. Je vous assure que Dieu vous bénisse, c'est bien. Vous pouvez bénir, voilà, au travail, on me casse les pieds. Seigneur, je veux bénir ces gens. Faites-le. Et Dieu peut utiliser ces gens pour vous bénir. Croyez-moi. Mais voulons-nous accepter d'écouter pour grandir dans la crainte du Seigneur? Parce que je vous assure, moi ce qui m'a le plus brisé, bon ça fait 16 ans que je suis ici, ça fait 31 ans que je suis pasteur, moi ce qui m'a le plus fait de mal, c'est pas de voir les pécheurs misérables, c'est de voir des chrétiens qui ne veulent pas naître de nouveau. Je vous assure, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Car ces gens qui écoutent la parole de Dieu, dimanche après dimanche, et qui ne changent pas, parce qu'ils n'ont pas appris la crainte de l'Éternel. Hier, je lisais les psaumes, un psaume. Je lis tous les jours un, deux ou trois psaumes. Et je lisais hier le psaume 55. Et ça m'a énormément aidé à préparer cette prédication. Dans le psaume 55, j'ai été frappé par la dernière partie du verset 20. Psaume 55, mais vraiment, Ça pourrait être la conclusion de cette prédication, mais vraiment ça m'a interpellé. Psaume 55, verset 20. La fin du verset, on va le lire en entier. Dieu entendra, il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Regardez la suite. Il n'y a point en eux de changement. Vous avez vu pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Et c'est Paul qui dit à Timothée, mais de ces chrétiens, ils apprennent toujours et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Vous connaissez, c'est 2 Timothée chapitre 3. Et vous avez vu la fin, au verset 13, il dit, ne le cherchez pas, ils finiront par s'égarer. Ils apprennent toujours, et il y a des chrétiens, on le voit, je le dis, c'est pas un jugement, mais c'est quand même, ça me brise le cœur. Et vous l'avez vu, il y a des, vous voyez des chrétiens, vous les revoyez un an après, qu'est-ce que vous regardez? Ils ont fait des progrès. Est-ce que vous le percevez, ça? Il y a quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un, par exemple, il avait, je sais pas, moi, au début, par exemple, quelqu'un, il fume, je prends un exemple. Il fume, vous le voyez en après, ah, j'ai pris la victoire sur le tabac. Ah, bon. Vous le voyez 3 ans après, ah, ben tu sais, j'étais jaloux. Ah, ben je suis plus jaloux. On voit ces progrès. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, on le voit dans les propos, etc. On voit la progression. On ne va pas demander à quelqu'un qui a plein de trucs de prendre la victoire de suite, à moins qu'il y ait une délivrance totale. Mais on voit les progrès. Mais il y a des chrétiens, il n'y a aucun progrès. Ils apprennent, et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité, parce qu'en vérité, ils n'ont pas appris la crainte de l'Éternel. Les enfants d'Israël à la mer Rouge, c'est ça. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Qui mieux qu'eux ont vu la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas changé. Et c'est ce manque de crainte, on l'a lu, mais je veux que vous appreniez la crainte. Je vais vous éprouver, parce qu'il ne faut pas que vous connaissiez juste ma puissance, il faut que vous appreniez à avoir la crainte de l'Éternel. Ils ont célébré la Pâque, ça ils ont célébré la Pâque. Comment ils ont célébré la Pâque avant de sortir d'Égypte? C'est extraordinaire, la célébration de la Pâque du peuple d'Israël, quand ils ont mis le sang sur les poteaux et sur les linteaux, quand l'ange exterminateur est passé, qu'il a tué les premiers-nés. Quand je vous dis que Dieu connaît tout le monde, le premier-né des hommes, des enfants, et le premier-né des animaux. Dieu est le Dieu de toute chair. Que Dieu connaisse par cœur les fils d'une maison, bon, c'est normal, il est Dieu. Mais Dieu est le Dieu de toute chair. Il connaît tous les animaux. La preuve, c'est que c'est les premiers-nés des animaux qui sont morts aussi. Tout ça, on n'y fait pas gaffe. On n'y fait pas attention. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu, il règne sur toute la création. Alors, à combien plus forte raison, sur nous, ses enfants. Ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré la délivrance, ils ont chanté, ils ont dansé, etc. Mais ils ne sont jamais rentrés dans les projets de Dieu. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'Église, dans notre pays, dans notre monde. À part certains endroits, il y a quand même un réveil. Il y a la grâce de célébrer la Pâque. Moi, je ne sais pas, moi, je me suis régalé de prendre le pain et le vin. Est-ce que vous vous réjouissez de prendre le pain et le vin? On célèbre la Pâque, c'est quand même merveilleux de prendre le pain et le vin. Oui ou non? Moi, c'est une bénédiction. Prendre le pain et le vin, je trouve que c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va rentrer dans les projets de Dieu. On rentrera dans les projets de Dieu, non pas parce qu'on est béni. On rentrera dans les projets de Dieu parce qu'on entrera dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de sérieux. Celui qui craint Dieu, il se détourne du mal. Hébreux 2, verset 1, pour ceux qui prennent des notes. Il nous est demandé de prêter attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Vous voyez? Et c'est pour ça que la doctrine, je parlais tout à l'heure du serviteur de Dieu, qui nous encourage à respecter la saine doctrine. Mais mes frères et sœurs, quand quelqu'un fait attention à ce qu'il entend, si quelqu'un ce matin dit mais tu m'as parlé Seigneur, c'est clair que dimanche j'ai saisi l'importance d'être béni, mais je ne voudrais pas être béni et passer à côté du projet que tu as pour moi. Je ne voudrais pas que l'Église soit bénie et Dieu bénira l'Église. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu bénisse l'Église ou que Dieu bénisse l'Église et que nous entrions aussi dans les projets du Seigneur? Bien sûr que nous entrions dans les projets du Seigneur. Dieu ne donne pas sa pensée comme ça à n'importe qui. Vous connaissez, psaume 25, verset 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. J'en ai mis des textes. Comment voulez-vous que la pensée de Dieu soit révélée s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans sa maison? On peut dire, Seigneur, parle-moi, et même pleurer, on peut pleurer, c'est pas une grosse affaire ça. On peut pleurer pendant tant qu'on voudra, Dieu pourrait nous dire, mais attends, arrête de pleurer et grandis dans le respect de ma parole. Le secret, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. Avons-nous compris l'importance d'avoir la crainte de l'Éternel? Est-ce que vous le comprenez? Cet enseignement doit être pris au sérieux. Même si vous venez pour la première fois, vous pouvez de suite prendre ces choses au sérieux. Car si tant de chrétiens sont passés à côté de bénédictions et de victoires, parce que moi je fais quand même la différence entre une bénédiction et une vie de victoire, c'est parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux cette parole « Venez mes fils et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». C'est bien de commencer chaque réunion par un cantique de joie qui nous parle du salut, de la joie du salut. On ne peut pas ne pas se réjouir du salut. Vous êtes d'accord? On ne peut pas ne pas se réjouir. Même si on est dans le deuil, même si on est affligé, on ne peut que se réjouir de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais on ne peut pas faire que se réjouir. Il y a également l'apprentissage de la crainte de Dieu. Et si nous calculions, parce que si on était un petit peu réfléchi, et si on calculait la quantité de grâce, de victoire, de bénédiction que nous aurions si nous nous mettions à dire « mais je veux la crainte de Dieu dans mon cœur ». Bien sûr que l'ennemi pourra peut-être nous éprouver, mais croyez-moi que Dieu va aussi nous utiliser. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il possède un appui ferme. Oui, on va lire un dernier verset dans Deutéronome chapitre 4 pour conclure. J'aurais aimé vous prendre toutes les promesses, mais ça vous pouvez le faire. Vous savez, quand il est dit « l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, la bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent ». Vous connaissez tous ces versets. Il y en a plein. C'est pour vous dire combien Dieu voulait que nous soyons fortifiés par cette parole. Mais dans Deutéronome chapitre 4, voilà le verset avec lequel je voudrais terminer, au verset 10. Bon, on va lire le verset 9, parce que c'est un verset sur lequel j'ai prêché il y a quelques années, et qui indique combien cette affaire est sérieuse et doit être acceptée tous les jours. Regardez Deutéronome 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les dimanches. » Vous avez comme ça dans votre Bible? C'est comme ça que vous avez? Tous les dimanches. Ah, pardon. « Veille sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, je répète, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. » Tout le temps qu'on vivra sur la terre, tout le temps qu'on vivra sur la terre, c'est hier ou avant-hier, ou il y a deux ou trois jours, je lisais l'histoire de ce roi, je ne sais plus comment il s'appelle, ce roi qui a marché pendant 37 ans avec Dieu. 37 ans avec Dieu. Et la 38e année, il a arrêté de chercher Dieu. Tu te dis, mais tu te demandes parfois. Marcher 37 ans avec le Seigneur, et la 38e année, ça vous promet, frères et sœurs, que tout le temps qu'on marchera sur la terre, il faut être sérieux. Je suis béni, c'est bien. Je suis éprouvé, j'accepte. Mais Seigneur, je veux apprendre la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel m'éloignera du mal. Et je vous le dis, mais sans embâge, si vous ne vous détournez pas du mal, c'est pas que vous n'aimez pas Dieu. C'est que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu, eh bien demandez-la à lui. Dieu vous la donnera. Et vous assure que les bénédictions seront beaucoup plus grandes que ce que vous pouvez penser.